Dans l'homélie de Jean-Paul II à Lourdes 2004. Peut-être que vous y étiez pour certaines d'entre vous. Moi, j'ai eu la grâce d'y être, j'étais prêtre depuis quelques jours, quelques semaines. 2004, donc Saint Jean-Paul II est vraiment au bout de sa vie, hein. Il est malade, il est en fin de vie. Et il demande, il choisit d'aller à Lourdes une dernière fois et d'y aller, il le dira lui-même, hein, en malade. Malade parmi les malades. Il était déjà venu comme pape, en pleine forme. Il y retourne, cette fois-ci, vraiment comme un pauvre, comme un fragile parmi les plus fragiles. Vous en souvenez peut-être, des photos, des images, des moments très émouvants. Jean-Paul II pleurant à la grotte de Lourdes. Vous pouvez retrouver ça sur Internet facilement. C'est des images d'archives qui sont bouleversantes. Et dans son homélie, dernière homélie du pape en France, eh bien Jean-Paul II aura un petit passage pour vous spécifiquement. On y viendra avec une expression que je trouve magnifique. Alors, dans sa lettre aux femmes, Jean-Paul II commence par deux mots, merci et pardon. C'est intéressant, c'est les deux premières choses qu'il a envie de vous dire. Merci et pardon. Le point de départ de ce dialogue, dit-il, ne peut être qu'un merci. L'Église désire remercier la très sainte Trinité pour le mystère de la femme. J'ai retrouvé souvent cette expression de mystère de la femme. Alors, il ne faudrait pas le comprendre de façon restrictive. Le mystère de la femme, c'est pas de façon négative. C'est pas de dire on n'y comprend rien aux femmes. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. Le mystère de la femme, c'est au contraire quelque chose qui appelle un regard contemplatif sur la femme. Un mystère, c'est quelque chose de vrai, mais dans lequel je ne peux entrer que par la contemplation. Vous voyez, le mystère de l'Eucharistie, c'est pas quelque chose qu'on comprend rien. C'est quelque chose qu'on a besoin de contempler, de recevoir, d'entrer peu à peu, et dont on n'a jamais fait complètement le tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dépasse, voilà, qui est plus grand que nous. Et c'est intéressant parce que Jean-Paul II, à plusieurs reprises, en fait, vous allez voir, il invite à poser ce regard de contemplation, qui est très différent, qui je trouve nous fait sortir par le haut d'un regard qui serait purement un regard de revendication, de dénonciation, de combat. Enfin, non. Il dit d'abord, contemplons le projet de Dieu. Il faut toujours, si on veut comprendre, il faut toujours revenir au projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a souhaité en créant la femme? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu regarde l'homme ou la femme? On entre dans un regard contemplatif sur le mystère de la femme. Et vous voyez, c'est intéressant parce que je le dis parfois aux garçons, aux hommes, pour apprendre à aimer une femme. C'est pas d'abord une question technique, une question de méthode, une question de bouquin à lire. Mais c'est vrai, je pense mutuellement. Il s'agit d'abord de contempler le mystère de l'autre. Parce que l'autre est différent, l'autre est d'abord un mystère que je ne possède pas. Et le premier regard que je pose sur l'autre, si différent de moi, c'est d'abord un regard de contemplation. Bienheureux les hommes qui garderont cette idée que la femme reste un mystère, non pas quelque chose auquel encore une fois ils ne comprennent rien, mais ils n'auront jamais fini de découvrir et de s'émerveiller de ce mystère qu'est la femme. Vous voyez ? Et on pourrait dire l'inverse pour vous vis-à-vis des hommes. Mais un homme, souvent, il veut maîtriser les choses. Et donc cet aspect de contempler, c'est reconnaître qu'on ne maîtrise pas. Le mystère de l'Eucharistie, jusqu'à la fin de nos jours, on pourra encore approfondir ce mystère. Vous voyez ? Ça demande un peu à lâcher prise en disant, mais j'accepte de ne pas totalement maîtriser, mais de contempler. Donc je désire rendre grâce, dit-il, pour le mystère de la femme et pour toute femme, pour ce qui constitue constituent la dimension éternelle de sa dignité féminine, on va en parler, et pour les merveilles de Dieu qui, dans l'histoire des générations humaines, se sont accomplies en elle et par elle. Et alors là, je vous cite, c'est pas trop long, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 merci que le pape énonce. Avec des expressions, c'est à méditer, hein, mais c'est très beau. Merci à toi, femme mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine une expérience unique, par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance, puis le point de repère sur le chemin de sa vie. Merci à toi, femme épouse, qui unit d'une façon irrévocable ton destin à celui d'un homme dans une relation de don réciproque au service de la communion et de la vie. Merci à toi, femme fille et femme sœur, qui apporte au foyer familial, puis dans le complexe de la vie sociale, les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta générosité et de ta constance. Merci à toi, femme au travail, engagée dans tous les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, artistique, politique, pour ta contribution irremplaçable à l'élaboration d'une culture qui puisse allier la raison et le sentiment, à une conception de la vie toujours ouverte au sens du mystère, à l'édification des structures économiques et politiques humainement plus riches. Je m'arrête un instant sur cette expression que je trouve vraiment très profonde. Merci à toi, par ta contribution irremplaçable, à une conception de la vie toujours plus ouverte au sens du mystère. Et ça rejoint l'expression de Jean-Paul II à Lourdes, que j'évoquais, quand il va dire, je vous cite, de cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous les femmes, en 2004, 15 août. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle, témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Vous pourriez passer une soirée entière à méditer ces mots. Et ça rejoint ce qu'il disait dans la lettre, voyez. Votre contribution dans la société, c'est de permettre justement d'établir, de construire une société qui soit ouverte au mystère. Et là, comme mon écho, il dit... Vous avez être les témoins de ces valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous, les femmes, il revient d'être les sentinelles de l'invisible. Peut-être parce qu'il vous est donné justement d'être plus sensible à ce qui est intérieur, à ce qui n'est pas réductible à une question d'efficacité, à ce qui n'est pas d'abord quantifiable, mesurable, mais à ce qui est de l'ordre de l'être, justement, avant le faire. En ça, vous voyez, pour moi, c'est cette expression de, qui a parfois été un peu calvaudée, de mère au foyer. Je préfère gardienne du foyer. C'est-à-dire gardienne... celle qui garde et qui veille sur le foyer, c'est-à-dire sur le feu qui anime la famille, le couple, sur l'âme, sur ce qui est l'âme de la famille, sur cette présence de l'invisible qui fait que on n'oublie pas ce qui est intérieur, ce qui est spirituel. Et souvent, dans beaucoup de familles, sans faire de généralité, l'épouse, la mère, la fille est celle qui rappelle qu'il ne faut pas oublier cet essentiel, cette vie intérieure, peut-être parce qu'elle y est plus sensible. Il en va sans doute de même dans une société. Surtout une société sécularisée, comme dit le pape, où du coup, ce qui compte, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui se voit, c'est ce qui se quantifie, c'est ce qui est efficace, c'est ce qui... etc. Et que c'est peut-être un combat aujourd'hui. Y compris, vous voyez, dans l'approche de la vie, que ce soit en fin de vie ou en début de vie, de rester une société qui reste ouverte au mystère. Là où la tentation est grande, de sombrer dans la toute-puissance, au contraire, de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout verrouiller, de vouloir techniquement maîtriser les choses. Une société ouverte au mystère. Une société, justement, où on n'oublie pas les choses qui sont, oui, de l'ordre de la vie intérieure. On n'oublie pas celui qui est l'hôte de nos âmes, qu'on ne voit pas, sur qui on ne peut pas mettre la main, mais qui est là, réellement présent. Vous voyez, quand je prépare des couples au mariage, c'est assez amusant, évidemment, parce que c'est le moment où on se confronte, évidemment. Chez deux jeunes qui découvrent les différences fondamentales entre l'homme et la femme, entre la façon d'aimer d'un homme ou d'une femme. Et c'est très beau à accompagner, à voir, et c'est parfois amusant de voir la découverte de l'altérité, enfin que l'altérité est vraiment... l'autre est vraiment différent. Hein. Et c'est quand même la source, vous le voyez bien dans vos familles, dans vos groupes, de l'essentiel, dans nos paroisses d'ailleurs, de l'essentiel de nos incompréhensions, de nos blessures. C'est qu'on a du mal à comprendre l'autre. Et on a toujours la tentation de vouloir que l'autre fonctionne comme nous, ce serait tellement plus simple. On ne sortirait pas de nos zones de confort. L'altérité fait travailler la générosité, parce qu'il faut aller vers l'autre, il faut essayer de comprendre l'autre. C'est en ça qu'on aime d'ailleurs, hein. c'est que on accepte cela, d'accueillir l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est. Et alors, parmi les différentes choses, on voit bien que, je vous donne un exemple qui date, ce ne sont pas des fiancés d'ici, parce que je connais des parents d'ici, j'ai préparé les enfants au mariage, je ne parle pas d'eux, je pense à ce couple de fiancée où elle voulait absolument faire le chemin de Saint-Jacques. C'était son rêve, c'était elle voulait absolument partir sur le chemin de Saint-Jacques avec lui. Bon. Lui, ça l'emmerdait profondément. Donc, hors de question, pas beaucoup de vacances, on tapait 5 jours de sur le chemin de Saint-Jacques. Elle y revenait, important, elle avait envie de dire un truc un peu profond, un peu vraiment. Lui, non. Et puis, un jour, il revient vers elle et dit bon, écoute, c'est bon, j'ai compris. Enfin, ok, on va le faire. Voilà, il sort le programme qu'il avait fait de A à Z. Voilà, on va faire tel jour, on parle de tel truc, machin, ensuite, voilà, on va faire tel truc, tel jour, tac, 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 tout était fait, maîtrisé, voilà. Il dit, mais en fait, t'as pas compris. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le temps qu'on allait passer à en parler ensemble, à construire ça ensemble, à faire ça ensemble. Est-ce qu'on allait s'arrêter là ou plutôt là? Est-ce que de quoi on allait parler sur ce trajet-là? Est-ce qu'on allait passer par là ou plutôt par là? Est-ce que là on prendrait un... Et alors lui, il dit vraiment, je comprends rien. Le mystère de la femme. En fait, vous voyez, typiquement, lui, et c'est souvent le cas, était immédiatement sur l'efficacité, la finalité, le but, et plus on y va vite, mieux c'est, où elle était sur la qualité de relation qui allait, dans ce voyage, allait être simplement l'occasion de faire grandir. La qualité d'être, il ne s'agit pas simplement de faire le chemin de Saint-Jacques. Il s'agissait ensemble, d'être ensemble. Vous voyez ? Là où lui voyait, bon, il faut faire 20 bornes pour arriver là, voilà. Elle voyait ce qu'on l'interruption. J'y pense parce que ce fameux synode dont on a parlé, il me semble, il y a un côté assez féminin, en fait. C'est pour ça que Christine Fauré-Julie l'a compris tout de suite, on va plus vite que moi. Parce que dans le fait justement de dire qu'il y a quelque chose de précieux dans le fait de marcher ensemble avant même de définir vers quoi on marche, voyez, c'est ça qui est intéressant. On rejoint ça, voyez. Là, au-delà de ce qui en sort, parce que ma première question, c'est question, c'est quoi le but? Et pour moi, le but, c'est de dire, on va faire ça, ça et ça dans la paroisse. Mais je pense que un regard plus profond montre qu'en fait, avant même de savoir l'objet, enfin, les résultats, c'est être ensemble. C'est pas faire, c'est être. Être avec, être ensemble. Et là, il y a une fécondité. Voilà. À ce qui se vit, qui est intérieur, en fait. Vous voyez, qui n'est pas maîtrisé intérieur. Eh bien, c'est une façon aussi d'être sentinelle de l'invisible, vous voyez, de rappeler cette primauté de l'être, cette primauté de la vie intérieure, cette primauté de ce qui ne se voit qu'avec le cœur, et qu'on ne peut pas mettre dans un tableau Excel. Vous êtes précieuse pour cela. Je continue, du coup, je n'ai pas lu une page. Et merci du Saint-Père. Merci à toi, femme consacrée, qui, à la suite de la plus grande des femmes, la mère du Christ, Verbe incarné, t'ouvre à toute docilité et fidélité à l'amour de Dieu. Aidant ainsi l'Église et l'humanité entière à donner à Dieu une réponse sponsale, d'épouse, qui exprime merveilleusement la communion qu'il veut établir avec sa créature. Merci à toi, enfin, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Voilà ces merci du Saint-Père. Et puis ensuite, il demande pardon. Il demande pardon parce qu'il dit le péché à la fois personnel des uns des autres, mais aussi, je dirais, le péché structurel, c'est-à-dire le fait où les conditionnements culturels ont fait que ont rendu souvent le chemin de la femme difficile, ont parfois fait méconnaître sa dignité. Alors il dit, on va pas chercher la responsabilité de chacun, mais il dit quand même, dans ce domaine, on ne peut nier, surtout dans certains contextes historiques, la responsabilité objective de nombreux fils de l'Église. Et je le regrette sincèrement, dit le pape. C'est beau, quand même. Le pape qui reconnaît que dans l'Église, on n'a pas toujours su, y compris les clercs, on n'a pas toujours su reconnaître, justement, cette dignité. Puisse ce regret se traduire pour toute l'Église par un effort de fidélité renouvelé à l'inspiration évangélique. Donc c'est pardon et conversion. Qu'il, précisément sur le thème de la libération de la femme par rapport à toute forme d'injustice et de domination, contient un message d'une permanente actualité venant de l'attitude même du Christ. C'est très beau, voyez, c'est que cette conversion du regard sur la femme, en fait, elle se vit en regardant le Christ, en regardant et en contemplant, là encore, son attitude vis-à-vis des femmes qu'il rencontre. C'est cette attitude du Christ qui est le message de libération et qui est c'est lui qui révèle au fond la dignité de toute femme. Celui-ci, continue le pape, dépassant les normes en vigueur dans la culture de son temps, eut à l'égard des femmes une attitude d'ouverture, de respect, d'accueil, de tendresse. Il honorait ainsi chez la femme la dignité qu'elle a toujours eue dans le dessein et dans l'amour de Dieu. En nous tournant vers lui en cette fin du deuxième millénaire, nous nous demandons spontanément à quel point son message a été reçu et mis en pratique. Le Christ n'invente pas. Ce n'est pas à partir du Christ que la femme a été infiniment digne, également digne à l'homme, aux yeux de Dieu, bien sûr que non. Mais le péché, on va y venir, a abîmé ce regard sur la femme, a abîmé ces relations homme-femme. Et le Christ vient réparer cela. Et c'est donc en le contemplant lui, en méditant lui, ses gestes et ses paroles, que nous redécouvrons la place de la femme dans le plan de Dieu et sa dignité aux yeux de Dieu. Le pape ensuite fait le constat aujourd'hui des situations difficiles, des différentes inégalités. Je passe pour aller plus vite. Il dit, face à tout cela, je suis convaincu que le secret pour parcourir rapidement le chemin du plein respect de l'identité féminine ne passe pas seulement par la dénonciation, pour nécessaire qu'elle soit, des discriminations et des injustices, mais encore et surtout par un projet de promotion, aussi efficace qu'éclairé, qui concerne tous les domaines de la vie féminine, en partant d'une prise de conscience renouvelée et universelle de la dignité de la femme. C'est surtout la parole de Dieu qui nous permet d'identifier clairement le fondement anthropologique radical de la dignité de la femme, en nous le montrant dans le dessein de Dieu sur l'humanité. C'est que le pape dit, oui, il faut dénoncer toutes les inégalités, oui, il faut dénoncer les discriminations, mais plus positivement, il faut promouvoir la dignité de la femme et son fondement. Et le fondement de la dignité de la femme, vous le trouvez dans la parole de Dieu. Et là, il nous entraîne sur deux chemins, la Genèse et le Christ. La Genèse, d'abord. Il est dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Expression qui clarifie immédiatement le caractère spécifique de l'être humain, l'homme en tant qu'être humain, là, dans l'ensemble de l'œuvre de la création. C'est un petit rappel. C'est-à-dire que je suis pour le respect du bien-être animal, mais attention à ne pas mettre l'animal au même niveau que l'homme. Il y a quelque chose de spécifique dans la dignité humaine. La création tout entière est confiée à l'homme, l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il doit ne pas en abuser, c'est pour ça qu'il doit respecter toute forme de vie sur cette terre. Mais, vous voyez, on a aujourd'hui tout un mouvement culturel assez fort qui tend à diminuer, à effacer la différence entre les espèces, entre les animaux et l'homme, réclamant pour les animaux les mêmes droits que pour l'homme, réclamant parfois les mêmes peines. Vous risquez autant si vous agressez votre chat, et parfois plus, votre chat qu'une personne. Donc, il faut tout ce qui promeut le respect de la nature, de tous les éléments de la nature. Bien sûr, ça vient dans le sens que là, ce monde nous est confié, on doit en prendre soin. Mais seuls l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ça, c'est un caractère spécifique, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé, il est créé homme et femme, depuis l'origine. Bien que se trouvant entouré par les créatures du monde visible, l'homme se rend compte qu'il est seul. Dieu intervient pour le faire sortir de cette situation de solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Depuis l'origine, donc, dans la création de la femme est inscrit le principe de l'aide. Aide, dit le Saint-Père, qui n'est pas unilatérale mais réciproque. C'est très important, ça. Dieu n'a pas créé une esclave pour l'homme. Mais l'homme et la femme aident mutuelles et réciproques. La femme est le complément de l'homme, comme l'homme est le complément de la femme. La femme et l'homme sont entre eux complémentaires. Le féminin réalise l'humain tout autant que le fait le masculin, mais selon une harmonie différente et complémentaire. Et là, c'est très profond, lorsque la Genèse parle d'aide, elle ne fait pas seulement référence au domaine de l'agir, mais aussi de l'être. Le féminin et le masculin sont entre eux complémentaires, non seulement du point de vue physique et psychologique, mais aussi ontologique, c'est-à-dire de l'être. C'est seulement grâce à la dualité du masculin et du féminin que l'homme se réalise pleinement. Très concrètement, ça veut dire quoi? J'ai besoin de l'autre pour être pleinement moi-même. J'ai besoin de la femme pour être pleinement homme. L'aide dont on parle, c'est pas simplement pour faire, pour agir, mais c'est pour être. C'est très fort parce que, pour moi, c'est le, comment dire, le fondement vraiment de notre complémentarité. Enfin, notre complémentarité va jusque là. C'est pas juste une complémentarité psychologique parce que la femme pense plus à ça et l'homme plus à ça. C'est pas une complémentarité physique simplement parce que l'homme serait plus comme ci ou la femme plus comme ça. C'est je ne serais pas complet sans ton aide. Voilà ce qu'on se dit l'un à l'autre. Je ne serais pas pleinement, je ne pourrais pas être pleinement ce que je suis sans ta présence et ton aide. Je dis ça parce que vous comprenez le rôle que vous avez auprès de votre mari, auprès de vos frères, auprès de votre fils, de vos fils, auprès de vos prêtres, auprès de ceux qui vous entourent, des hommes qui vous entourent. Vous voyez ? Vous m'aidez à être pleinement homme. Ça va jusque-là. Parce que dans une communauté, s'il n'y avait aucune femme, eh bien, il manquerait profondément quelque chose. Pas simplement pour faire des choses que je ne sais pas faire, mais pour être pleinement ce que je peux être. C'est ça l'altérité. Je ne peux pas me passer de l'autre, parce que je ne peux pas être ce que je suis appelé à être, sans l'autre. C'est vous qui aidez vos fils à devenir hommes. Ils ont besoin de vous. C'est vous qui aidez votre mari à être pleinement homme. Il a besoin de vous pour être ce qu'il est. Pour être accompli dans sa masculinité. Pour être heureux d'être homme. C'est votre regard de femme posé sur lui qui participe à le rendre heureux comme homme. Oui. Et inversement, évidemment. Et vous savez bien, au fond, le regard que les hommes posent sur vous vous aide ou pas à vous accomplir, à avoir confiance en vous, à être heureuse dans votre vocation, dans ce que vous êtes. Et dans un couple, enfin, tout ça se joue en particulier dans le couple, évidemment. Où cette. Il y a une sorte de plénitude et d'accomplissement plein et entier, par l'autre, avec l'autre, et pour l'autre. C'est très. Je trouve ça très beau à méditer. Alors que souvent, on est, quand on parle de complémentarité, on en reste à ce que je peux faire ou ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire et du coup j'ai besoin de toi pour faire. Vous voyez, on reste dans du faire. En fait, j'ai besoin de toi pour être. C'est très fort. Je m'aperçois que je parle beaucoup et je suis déjà très retard. Je vais, du coup, restreindre. La mission commune, hein, de remplir la terre et celui là, de cultiver cette création qui nous est confiée, est confiée à l'homme et la femme. Dans cette tâche qui est essentiellement une œuvre de culture, l'homme comme la femme ont une responsabilité égale depuis l'origine. À cette unité des deux sont confiées par Dieu non seulement l'œuvre de la procréation et de la vie de la famille, mais la construction même de l'histoire. C'est aux deux que c'est que cette. Vous êtes confié. Ce qui est intéressant, c'est que le péché va venir abîmer tout ça. Vous savez, le péché, c'est pas le péché originel n'a pas simplement abîmé le cœur de l'homme et de la femme, il a abîmé toute la création. Et donc il a abîmé aussi les relations humaines. Et une des premières conséquences, c'est le déséquilibre que ce péché va introduire dans les rapports originels entre l'homme et la femme, hein, qui étaient adéquats à la dignité de l'un et l'autre. Au contraire, nous découvrons, vous savez, cette phrase, la fameuse phrase, hein, que Dieu dit à la femme, le désir te portera vers ton mari, il dominera sur toi. Et comme conséquence, c'est-à-dire cette relation, cette tentation, vous voyez que la relation de communion et d'aide mutuelle se transforme en une relation de pouvoir et de domination, c'est une conséquence du péché. Nous découvrons une rupture et une menace constante affectant précisément cette unité des deux, qui correspondait à la dignité. Le fait que chacun d'eux soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nos relations sont affectées par le péché, évidemment. Et c'est ça que Jésus vient réparer. On terminera là-dessus. Quand on contemple Jésus dans l'Évangile, hein, en la personne, dans la mission de Jésus-Christ, dans lesquelles nous découvrons ce que la réalité de la rédemption signifie pour la dignité et la vocation de la femme, c'est lui qui vient restaurer dans toute sa beauté la dignité et la vocation de la femme. Rappelez-vous quand les pharisiens disent à Jésus, mais est-ce qu'on a le droit de renvoyer sa femme? Jésus dit, qu'est-ce que dit la loi de Moïse? Il faut écrire, il faut une justification pour la répudier. Jésus dit, il n'en était pas ainsi à l'origine. Ça a été accepté, consenti par Moïse, parce que vous êtes un peuple à l'Ukraine, parce que vous êtes dur de cœur, etc. Mais c'est, vous voyez, c'est en deçà du projet initial que le péché vient abîmer. À l'origine, et là Jésus reprend la Genèse. Et c'est pour ça, dit Jésus, que le devoir de fidélité est autant l'un pour l'autre. Concerne l'un comme l'autre, parce que la dignité de l'un et de l'autre est égale. Les Juifs qui écoutent Jésus sont catastrophés. Voilà, ça vaut plus la peine de se marier d'ici. Vous voyez, Jésus est venu restaurer l'exigence, la beauté, la grandeur du projet de Dieu qui avait été abîmé. Jésus s'est fait auprès de ses contemporains l'avocat de la vraie dignité de la femme et de la vocation que cette dignité implique. Il va étonner, il va même choquer régulièrement. Je vous passe, amusez-vous à aller découvrir. On peut relire tout l'évangile. Dans l'évangile, vous lisez toutes les rencontres, hein, tous les moments où Jésus est en contact avec les femmes de son temps. Et l'étonnement que ça suscite. Chez les hommes de son temps. Les femmes de l'Évangile, c'est aussi bien celles qui le suivent. Parmi les disciples, il y a des femmes. Et qui le suivent, et qui le suivent jusqu'au bout. Elles constitueront l'essentiel des troupes au pied de la croix. Il n'y aura que Saint Jean qui l'aura tenu jusqu'au bout. Ce sont elles qui... Il y en a plusieurs que Jésus guérit. Mère de Simon, la fille de Jaïr, la veuve de Naïm, la cananéenne, souvent en louant leur foi. On trouve aussi, toujours, dans ses paroles et ses actes, le respect et l'honneur dû à la femme. Cette façon de parler des femmes et aux femmes, ainsi qu'à la façon de les traiter, constitue clairement une nouveauté par rapport aux mœurs de son époque. Et c'est encore plus manifeste quand il s'agit des femmes, que l'opinion appelait les femmes pécheresses. La Samaritaine, avec qui Jésus a un dialogue profond, spirituel, elle-même en est bouleversée, tellement étonnée. Celle qui répand du parfum sur ses pieds, qui avait été pris par de nombreux démons, celle qu'on a surpris dans l'adultère. L'attitude de Jésus à l'égard de ces femmes est le reflet du projet de Dieu qui, en créant chacune d'elles, a choisi Hélène dans le Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, par ses paroles, par ses gestes qui ont parfois choqué, en fait, révèle, confirme, rappelle, renouvelle la dignité de chacune de ces femmes qu'il rencontre. Et il va même éveiller la conscience chez les hommes de cette dignité, et parfois du coup de leur manque de justesse dans leur relation. Par exemple, avec la femme adultère. C'est très intéressant, avant de lui dire à elle « je ne te condamne pas », il éveille la conscience du péché chez les hommes. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est intéressant, Jésus semble dire aux accusateurs, dit le pape, cette femme, avec tout son péché, ne fait-elle pas apparaître aussi et surtout vos propres transgressions, votre injustice masculine, vos abus. Et aucun ne jette la pierre. Souvent, vous voyez, le péché public, le péché à elle, derrière son péché à elle se cache un homme pécheur, coupable du péché d'autrui, co-responsable de ce péché. Mais comme souvent, c'est elle qui paye. C'est elle qui est dénoncée aux yeux de tous. Encore aujourd'hui, combien de femmes en détresse pour accueillir la vie ? Parce que l'homme s'est carapaté. Et c'est elle qui va porter le poids, hein, y compris peut-être de mettre fin à cette petite vie naissante. Mais qui est derrière ? Où est l'autre ? Vous voyez ? Jésus, là-dessus, est exigeant de vérité. Je termine, promis, je conclue. Allez, je vais vous citer ce qu'il dit. La dignité de la femme et sa vocation, comme du reste celle de l'homme, trouvent leur source éternelle dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi tout homme doit considérer en lui-même si celle qui lui est confiée comme une sœur dans la même humanité, étant son épouse, n'est pas devenue dans son cœur un objet d'adultère. Si celle qui, de diverses façons, est le co-sujet de son existence dans le monde, n'est pas devenue pour lui un objet. Jésus, c'est ça qui va pousser comme idée. D'aider l'homme à retrouver le regard d'émerveillement d'Adam sur elle. De ne jamais regarder celle qui est sa sœur en humanité comme un objet, mais toujours comme un sujet d'égal dignité. Ce regard de l'homme qui avait été abîmé par le péché. Jésus le purifie, le convertit, pour que l'homme à nouveau retrouve en la femme celle qui lui est confiée et inversement, et se voit confiée à celle qui est en face de lui. Regard émerveillé de l'un sur l'autre. C'était le regard émerveillé d'Adam découvrant Ève. Voyez, non pas comme quelqu'un qui allait pouvoir dominer, mais comme son égal, en qui il se réjouissait, qu'il recevait comme un don de Dieu. Et c'est sans doute au Christ, et donc au christianisme, même si parfois les fils de l'Église n'ont pas toujours compris cela, n'ont pas vécu cela, mais au Christ et au christianisme, que nous devons cette redécouverte, qui est un bouleversement culturel immense, de la dignité et de la valeur de la femme. C'est ce que toutes les femmes ressentiront face au Christ. Tout ce qui a été dit ici sur l'attitude du Christ à l'égard des femmes confirme et éclaire dans l'Esprit Saint la vérité sur l'égalité de l'homme et de la femme. On doit parler d'une radicale parité, étant donné que tous deux, la femme comme l'homme, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous deux sont au même titre susceptibles de bénéficier de la révélation de Dieu et de l'amour dans l'Esprit Saint. Cette révélation est offerte aux deux. C'est la chose même étonnante, hein, ces femmes gardiennes du message du Christ qui vont annoncer la résurrection. C'est les femmes les premières qui sont au tombeau, c'est les femmes la première qui voient Marie-Madeleine, la première qui voit le Christ ressuscité, c'est elle-même qui l'annoncera aux apôtres, etc. voyez, elles reçoivent tout autant que les hommes cette révélation de Dieu. Alors, prenons ce temps de prière. Peut-être justement, en vous laissant regarder par ce regard du Christ, en méditant le regard qu'il a posé sur les femmes qu'il a rencontrées, sur vous-même aujourd'hui, ce soir, qu'il rencontre. C'est lui qui a le regard le plus juste sur vous. Et c'est, de même que c'est le regard de celui qu'on aime, qui nous fait découvrir qu'on est aimable. C'est pour ça qu'une fille a besoin que son père la regarde et lui dit « je t'aime et tu es belle », etc. Une femme a besoin que son époux la regarde toujours avec émerveillement et continue de lui dire « je t'aime, je te fais confiance », etc. De même que chacun d'entre nous, mais vous ce soir, avons besoin que le Christ nous regarde et nous dise « je t'aime, tu es belle d'une infinie beauté aux yeux de Dieu ». C'est le regard de l'autre qui rend beau, qui rend belle. Voyez, c'est le regard de l'autre qui s'émerveille, qui nous fait découvrir à nous-mêmes notre propre valeur, notre propre prix. Souvent, on a du mal à s'estimer soi-même. Mais c'est dans le regard de l'autre que je comprends ce que je suis, ce que je vaux. Voyez, et c'est pour ça que ces temps d'adoration, ces temps où on est sous le regard bienveillant de Jésus, nous reconstruisent, nous restaurent, nous affermissent, nous mettent, nous consolent. Nous aide profondément quand on entre peu à peu dans ce mystère, cet échange de regards, parce que je me découvre aimée, je me découvre précieuse pour vous, précieux pour moi, aux yeux de Dieu, voyez. Et c'est là où je comprends ce que je suis, le mystère de ce que je suis. C'est vraiment ce regard de Dieu, c'est lui qui me connaît mieux que moi-même, et c'est lui qui me comprend mieux que moi-même, c'est lui qui me révèle à moi-même ma vocation, mon identité profonde, et me fait redécouvrir la joie d'être ce que je suis et de recevoir ce que je suis comme un don. Il m'est donné. C'est peut-être ce qu'on a besoin de redécouvrir aujourd'hui. Je n'ai pas choisi, mais il m'est donné d'être ce que je suis. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur vous aide, chacune, à profondément redécouvrir le mystère de ce que vous êtes. Sous son regard, par son regard, et qu'il vous aide du coup à tenir pleinement votre place et auprès des vôtres, et dans cette paroisse, et dans l'Église, et dans ce monde, parce que aussi bien dans nos familles que dans l'Église, que dans ce monde, eh bien nous avons besoin que vous soyez, pour nous tous, sentinelle de l'invisible, celle qui rappelle ce primat de la vie intérieure, celle qui rappelle cet essentiel que le cœur voit, celle qui rappelle l'importance justement de cette complémentarité profonde, voilà, de cette aide mutuelle pour que chacun soit heureux de se recevoir de Dieu. Amen.